Ve République, anatomie d'un régime en crise.
Absence de majorité, compromis difficile, coalition fragile, censure. Longtemps gage de stabilité, la Ve République est aujourd'hui fragilisée comme jamais depuis son origine en 1958. Saura-t-elle, comme par le passé, surmonter ses difficultés ?
Thomas Negaroff.
Six grandes dates, six épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec la spécialiste de la Ve République, la juriste Anne-Charlène Bézina.
Épisode 5, 2002. La République au défi de l'extrême droite.
S'encourageant les uns les autres, ils portent Chirac sur le pavois. Mais Chirac n'est pas Clovis, c'est Quasimodo. C'est le syndic de faillite de la Ve République qui a trahi toutes les nobles fonctions qui lui avaient été confiées en 1995. Jean-Marie Le Pen, le 1er mai 2002. On poursuit la conversation avec Anne-Charlène Bézina, l'autrice de cette constitution qui nous protège chez IXO. Là, la constitution, elle est mise à mal ou pas, d'ailleurs, tiens, par l'arrivée au second tour de Jean-Marie Le Pen, qui est quand même, et on l'a entendu, hein, un grand critique, pas forcément de la cinquième, mais du fonctionnement de la cinquième.
En réalité, c'est un peu la montée en puissance d'un parti anti-système dans le système, ouais, qui est inquiétante et qui est aujourd'hui une norme dans toutes les vieilles démocraties européennes.
Mais c'est-à-dire à l'époque, c'est un coup de massue.
Ah, c'est un coup de massue pour les analystes, c'est un coup de massue pour les Français. Les images restent très marquantes et on a un front républicain qui est vraiment vécu de l'intérieur. On a le sentiment de quelque chose qui vient des entrailles en fait, de la France, même si... En réalité, tout ça a été possible eu égard à des calculs électoraux qui n'ont pas été les bons. C'est-à-dire que finalement, on se rend compte que la gauche s'est affaiblie.
Divisée.
Elle s'est divisée, que les Français ont toujours la dent dure envers le sortant, finalement. Et qu'il y a une tentation du vote protestataire qui devient très puissante avec cette Ve République. C'est-à-dire que comme on a un système très majoritarisé, avec quand on élit un gagnant, il gagne tout, la seule tentation, c'est de se dire, finalement, je vais essayer d'aller casser quelque chose de l'intérieur. Et c'est ça que le vote Jean-Marie Le Pen incarne à ce moment-là.
Et le meilleur moyen de le casser, c'est de casser la tête. Dans un régime aussi présidentialisé, on l'a entendu dans l'extrait que je viens de lire, c'est Chirac, Chirac, Chirac. Là où, pour d'autres, c'est Le Pen, Le Pen, Le Pen. Est-ce que c'est ça aussi, finalement, peut-être l'échec de cette constitution de 1962, d'avoir personnalisé à ce point les institutions ?
Alors, c'est vrai que c'est une de ces marques de fabrique. Je ne sais pas si c'est vraiment une défaillance, parce qu'il fallait à la fois faire la synthèse de ce qu'on aime du régime parlementaire dans toute notre histoire, mais aussi de cette volonté d'être chefé. C'est Jacques Chirac que je cite dans le texte. Et précisément, la personnalisation, en réalité, encore une fois, tu sais, ce discours de Gaulle, elle dépend des hommes. C'est-à-dire que quand tu as un sens de la nation qui dépasse ta propre personne et que tu essayes de ne pas être le chef de ton parti en même temps, de ne pas politiser complètement ton mandat, tu peux faire quelque chose de plus grand que toi. C'est ça l'ambition de la Ve République. C'est-à-dire que dans beaucoup de ces dispositions, en réalité, on retrouve ça. L'idée d'hommes qui se dépassent par eux-mêmes.
5 mai 2002.
Jacques Chirac est élu président de la République avec 82,1% des voix. Jean-Marie Le Pen, 17,9% des voix.
Chirac va être réélu avec 82% des suffrages et il aurait pu, à ce moment-là, incarner ce que tu dis. Une personnalité, un chef d'État au-dessus des partis. Sauf que l'UMP, l'Union de la Majorité Présidentielle, c'est l'ancienne RPR plus l'UDF, en gros, la droite plus libérale. Est-ce que ça dit que c'est une occasion ratée, là ?
J'ai le sentiment, en effet, qu'il y a quelque chose de raté et de doublement raté. Premièrement, par rapport au fait que c'est vrai qu'il a un message très solennel le soir où il gagne cette élection. On sent qu'il est profondément marqué quand même. Il a refusé le débat d'entre-deux tours avec Jean-Marie Le Pen. Il a chevillé au corps ce Front républicain quand même. C'est quelqu'un qui, quand il quitte la présidence de la République, a une allocution qui tourne aujourd'hui beaucoup, où il dit « ne soyez jamais tenté par les extrêmes ». Et c'est quelque chose qui fait partie de son combat politique. Il aura beaucoup reproché d'ailleurs à la dissolution de ce mode de scrutin de 86, l'entrée du Front National à l'Assemblée nationale. C'est quelque chose qu'il ne pardonne pas à l'opposition de gauche.
35 députés en 86.
Donc, c'est quelque chose de réel chez lui, mais finalement, il n'en fait pas grand-chose. Et deuxième point, on est arrivé en 2002, mais on a sauté une petite période sur laquelle il faut absolument qu'on revienne, qui est les deux ans qui précèdent, 2000-2001. Qu'est-ce qui se passe ? En 2000, Lionel Jospin, encore Premier ministre, et Jacques Chirac décident de réviser la Constitution pour le fameux quinquennat pompidolien dont je te parlais, qui est l'idée de raccourcir le mandat du président de 7 à 5 ans pour renouveler plus facilement les têtes et pour qu'il n'y ait plus de cohabitation. Ça les a traumatisés.
Ah oui. Et tu notais le paradoxe d'une cohabitation qui a bien marché, à ce point d'ailleurs qu'ils s'entendent pour tuer la cohabitation.
C'est exactement l'idée. C'est-à-dire que les deux têtes de la cohabitation disent plus jamais ça.
Et alors que les Français aimaient plutôt bien ça.
Alors que les Français n'y avaient pas vu d'inconvénient. Et au final, on va donc raccourcir le mandat du président, ce qui va le ramener au mandat de l'Assemblée nationale.
Cinq
et
ans.
Là, il y a un deal. Est-ce que on continue à déconnecter les mandats. Alors, ça peut apparaître un peu technique ce que je dis, mais c'est
vraiment... Elle est décalée dans le temps, tu veux dire ?
Capital. C'est-à-dire, 5 ans pour le président, 5 ans pour l'Assemblée nationale. Oui. Mais si on les élit à un an de différence, c'est deux élections avec deux légitimités. Sauf que, précisément, alors c'est François Bayrou qui dit, en fait, on va remettre les choses dans le bon sens. C'est pas sûr. C'est-à-dire qu'on va dire que c'est les constitutionnalistes qui disent que c'est une réforme de l'inversion du calendrier. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on met les législatives après les présidentielles, mais pas n'importe quand
juste
après.
Juste après.
Ouais. À peine un mois après. Et c'est là qu'on surinvestit ce qu'on appelle le fait majoritaire. C'est-à-dire cette idée qu'il y a une majorité qui doit traverser la France du président au Premier ministre, en passant par l'Assemblée nationale, avec souvent un Sénat concordant, les régions, les municipalités, le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire une France d'une même couleur politique.
Le pari étant que la majorité qui a donné la présidence à un parti lui donnera à l'Assemblée deux mois plus tard, à moins d'avoir un pays, pardonnez-moi pour ceux qui n'aiment pas l'expression, mais schizophrène. En gros, on vote deux fois de la même manière à deux mois d'écart.
Oui, mais tu vois,
enfin,
ça veut dire,
marché, mais
ça veut dire que le président doit avoir son Assemblée nationale. Et encore une fois, ça c'est ce qu'a fait Mitterrand avec la dissolution de 81, c'est quelque chose qui n'est pas forcément l'ADN du régime. Parce que si on la lit intégralement notre Constitution, on se rend bien compte qu'elle est bourrée de contre-pouvoirs. Chacun doit s'entendre dans une forme de systémique. Et en fait, tu la romps, cette systémique-là, quand tu mets tout le monde de la même couleur, parce que évidemment que tous les organes d'un même parti politique pensent de la même façon. Donc, les contre-pouvoirs s'amenuisent, en quelque sorte. Et quand en 2000, avec le quinquennat, on inverse le calendrier, c'est-à-dire qu'en fait, on fait élire l'Assemblée nationale juste après, eh bien, en 2002, avec Chirac à la suite de cette victoire-là, et c'est pour ça que c'est, à mon avis, son deuxième échec, eh bien, il est le premier président de la République à avoir tous les pouvoirs. C'est Guy Carcassonne qui dit Chirac 2, tous les pouvoirs. Parce que c'est la vérité. Il a eu la première réforme quinquennat plus Assemblée nationale à sa main. Et là, il aurait pu faire beaucoup de choses. Et en réalité, comme c'est son deuxième mandat, un peu comme pour François Mitterrand, il est un peu usé du pouvoir. Il n'a pas de capacité d'initiative. Et cette majorité Godillot, elle ne lui sert pas à grand-chose.
Je rebondis quand même sur ce que tu viens de dire. Est-ce que pour toi, c'est un problème démocratique que cette inversion du calendrier, dans la mesure où les contre-pouvoirs nécessaires dans une démocratie, pour le souffle démocratique, sont affaiblis par cette convergence du pouvoir entre les mains du président? Parce que si le président a avec lui le gouvernement et l'Assemblée, le pouvoir, il est à l'Élysée.
Alors oui, pour moi, c'est quelque chose sur lequel il faudrait travailler. Notamment parce que, en réalité, ça a affadi notre culture de l'opposition. C'est-à-dire que l'opposition, elle s'est complue dans cette figure majoritaire. Et on voit bien qu'il n'y a plus la culture de faire de l'opposition constructive, de faire quelque chose qui fasse entendre d'autres couleurs à la nation. Et donc, en quelque sorte...
On le paye aujourd'hui ?
Je crois.
Tu es en train de me dire qu'on vit les résultats des 20 ans de cette réforme-là ?
Oui,
25
des
ans,
20
ans, un quart de siècle déjà.
Presque 25 ans de cette réforme-là, en effet. Puis aussi un petit peu de la Ve République mal interprétée. Parce que, tu sais, Marcel Prélot, qui est un constitutionnaliste, enfin un très grand juriste qui fait plein de choses d'ailleurs, disait au début de la Ve République, en fait, elle a enfermé le Parlement dans un corset orthopédique. Et tu sais que quand on est dans un corset, on se démuscle. Eh bien, le Parlement, il s'est démusclé, en réalité. C'est ça qui nous est arrivé. C'est qu'il a tellement été corseté, il a tellement été habitué à un président un peu dominant, en réalité, qu'il n'y a plus vraiment eu de culture parlementaire. Si on avait gardé un président de la République élu, allez, deux ans tranquille, et puis une nouvelle élection de l'Assemblée nationale, peut-être que les Français iraient avec plus d'engouement à l'élection législative et peut-être que le Parlement pourrait mieux parlementer.
Cet épisode s'intitule la République au défi de l'extrême droite. On a évoqué 2002, mais l'extrême droite n'a cessé de progresser dans le pays sous des formes et des noms différents. Mais est-ce qu'elle lance un défi à la République, selon toi ?
Je pense qu'elle lance en tout cas un défi à nos institutions.
Oui, c'est ça la question.
Certitude. À la République,
il ne s'agit pas de dire qu'ils sont anti ou pour la République.
C'est important de le dire aussi, c'est-à-dire que finalement, bon, le caractère républicain, aujourd'hui, il est quand même assez partagé par l'ensemble de notre échiquier politique. Donc, on n'est plus vraiment dans des querelles qu'on a pu avoir dans notre histoire, qui ont été très dangereuses pour notre survie.
Oui.
Mais aujourd'hui, beaucoup de démocraties vivent en fait la montée en puissance de partis anti-système dans le système, comme on l'a dit, c'est-à-dire avec quelque chose de pernicieux qui consiste à dire qu'on prend le pouvoir, sans en avoir forcément déjà la culture et nécessairement le respect, puisque ce sont des partis qui ont généralement fait toute leur classe dans l'opposition, donc qui ont une culture plutôt un peu comme tu le disais de Jean-Marine Le Pen, presque une culture du contact, c'est-à-dire de la recherche de l'opposition assez violente. Et au fond, arriver aux manettes, ensuite, leur optique est finalement une optique de... Tu sais, ce concept de Derrida, de déconstruction, c'est pas forcément qu'on veut détruire quelque chose, mais c'est qu'on veut prononcer un discours en attaque des règles institutionnelles, de la technocratie, de la classe gouvernante. Et le RN a beaucoup de qualificatifs pour ça. L'UMPS, les petits arrangements de couloir. C'est vraiment leur idée de se dire qu'ils sont un parti qui pourrait proposer une alternance populaire contre... une certaine manière de diriger. Et c'est une forme de populisme qui existe dans beaucoup d'autres démocraties avec cette idée de faire autrement des institutions. Donc, évidemment, ça fragiliserait notre constitution. On voit bien qu'ils veulent déjà gouverner par l'article 11, ce qui, on l'a dit, est profondément contraire à l'esprit des institutions. Ils veulent revenir sur les pactes fondateurs de beaucoup de nos éléments de liberté fondamentale en réformant des articles clés de la Constitution sur la place des traités. Donc, il y a évidemment des éléments qui sont très dangereux pour la survie de la Ve.
Mais il y a un président qu'on n'a pas cité, il y en a deux qu'on n'a pas cité. On n'a pas cité Nicolas Sarkozy, même trois avec Emmanuel Macron, c'est le prochain épisode, mais on n'a pas cité Nicolas Sarkozy et François Hollande. On peut en dire un mot de chacun parce que chacun incarne de manière assez différente, finalement, la fonction présidentielle et les institutions de la Ve.
C'est vrai. Alors, avec une hyper-présidence, on en a parlé comme ça de la part de Nicolas Sarkozy, parce que c'est le premier à vraiment faire quelque chose de cette fameuse concentration des pouvoirs en 2007. Il a l'Assemblée nationale, il a le Sénat, il a les régions. Ça se passe relativement bien pour lui dans les premières années, puisqu'il a le peuple de son côté. Il y a une réforme qu'on lui doit, qui est vraiment importante, qui est la réforme constitutionnelle de 2008. Alors, ça peut paraître technique comme
très important.
C'est vraiment un plan capital, parce que c'est une réforme qui a rééquilibrer notre Ve République. Elle s'appelle comme ça, en tout cas, réforme de rééquilibrage. Elle a voulu redonner du lustre au Parlement. Et ça, c'est vrai qu'elle l'a réussi. Elle lui a permis de partager son ordre du jour, c'est-à-dire de décider de son planning. Elle lui a permis d'avoir un peu plus de contrôle sur les 49 alinéas 3. Ils sont désormais réservés au texte financier ou à un texte seulement par session. Et il y a plein d'éléments, en réalité. Le texte des commissions est retravaillé, les commissions s'en sont plus grand nombre, la question prioritaire de constitutionnalité, c'est-à-dire toute la constitution qui est vécue par l'ensemble des citoyens désormais, le référendum d'initiative partagée, des nominations contrôlées. On pourrait vraiment aller très loin. Presque 9 articles sur 10 sont changés dans la constitution. Alors, elle ne contient pas 10 articles, elle en contient 108. Mais je veux dire, il y a cette idée d'aller vraiment sur une réforme globale pour rééquilibrer les choses, pour l'adapter à son temps, en fait. Et en 2008, elle a vraiment vécu une cure de jouvence, cette constitution de 58. Elle change de paradigme.
Mais pourquoi ce président si présidentiel fait cela, Nicolas Sarkozy ?
C'est un peu De Gaulle en 58, c'est-à-dire que finalement, quand on a la tentation d'être vu comme quelqu'un d'un peu népotique dans son style, on a besoin de l'égaliser profondément. Donc De Gaulle le fait très bien et Nicolas Sarkozy le fait très bien. C'est vrai qu'il donne beaucoup de pouvoir aux oppositions et au peuple, quand il est au pouvoir. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit dire, même si il a beaucoup représidentialisé la Ve, notamment par un élément. Il garde la présidence de son parti.
Pour le coup, c'est en opposition totale avec l'esprit des institutions du général De Gaulle.
Total avec le gaullisme. On est bien d'accord, il n'est plus au-dessus des partis. Donc, non seulement il est le chef de la majorité législative, ce que De Gaulle n'était pas, mais en plus, il est le chef de son parti. Donc là, on rompt complètement la logique gaulliste de 58.
François Hollande, longtemps chef de son parti, ne le sera plus quand il sera à l'Élysée en 2012.
C'est vrai, même si, finalement, le président normal, c'est comme ça qu'il avait dit, moi président, une non-Britannie très importante dans ce deuxième tour, en réalité, il va vraiment devenir le président de la Ve. Lui aussi, finalement, il l'incarne. Mais il y a un moment où c'est un espèce d'échec très dur qui est le sien. C'est-à-dire que dans la fin de son mandat, il y a l'urgence, il y a les lois d'urgence d'attentat de 2015. Donc il y a un usage très solennel du message aux assemblées, avec un message au Congrès, une Marseillaise très poignante qui est entamée par l'ensemble de nos parlementaires. Et là, il fait une annonce qui lui coûte beaucoup. Il veut réformer la Constitution pour la faire intégrer l'urgence, l'état d'urgence notamment, et la déchéance de nationalité. Alors, on lui reproche justement un virage qui n'est pas du tout idéologique de gauche à ce moment-là. Oui. Puisque c'est vrai que sa ministre de la Justice démissionne pour ça. Pour, elle le dit, divergence idéologique.
Ouais,
c'est
Taubira.
Quand même violent, Christiane Taubira. Et il propose une réforme de la Constitution qui n'arrive même pas à convaincre l'Assemblée nationale. Donc, en réalité, il la sort de l'agenda parlementaire, alors qu'elle avait déjà commencé à être travaillée. Et il a un discours en décembre pour préciser qu'il ne se présente pas à la suite de ça, en réalité.
Est-ce qu'il y a eu tentation de l'article 16 au moment des attentats ?
On en a parlé, en effet. C'est vrai qu'il aurait pu être adapté, parce qu'il y a une menace sur l'intégrité du territoire. Alors, ce qui manquait un peu, c'est le fonctionnement normal des institutions, parce que c'est vrai qu'on aurait pu faire fonctionner notre Parlement, même si, en fait, il y a une difficulté dans toutes les démocraties, à partir un peu de ce moment-là, 2013, 2011 même, pour les grandes démocraties, autour de l'urgence antiterroriste, qui amène à des lois de plus en plus dures sur les libertés, mais qui prennent en compte l'urgence. On ne peut pas forcément avoir des procédures normales face à des menaces extraordinaires.
Les difficultés aujourd'hui, elles sont largement politiques, liées à la fin de ce qu'on appelle le fait majoritaire. C'est la grande nouveauté de la Ve République de notre temps présent. Ça sera l'objet du dernier épisode de notre conversation.
Ve République, anatomie d'un régime en crise, un podcast original de France Inter.